ou deux, mon amour, avec le WWF. Construisons un avenir où l'homme vit en harmonie avec la nature. Rendez-vous sur www.fr.
Qui veut rentrer où ?
Mais Alix !
Alix !
Elle supporte plus le bateau, elle veut se faire la malle depuis le début.
Vous savez que moi non plus, j'en peux plus. Comme je vous comprends, moi c'est mon père. Il voulait un fils officier de marine, il n'aimait que la mer. Moi, ce que je préfère, c'est la terre. Oui, j'aime les champs, les champs de betteraves, les champs de navets.
CO2, mon amour ?
Moi, j'ai un élevage de porcs. 50 bêtes.
C'est pas possible, à quel endroit ?
En Bretagne, Côte d'Armor, Plumeur-Baudou.
Plumeur-Baudou, si vous saviez comme je vous envie.
Oui, enfin, je vais pas y retourner, là.
Et moi, je peux plus saquer les mouettes.
Avec Denis Chessoux.
Oui, j'ai atteint mon seuil, là. Alors, je voudrais, moi aussi, monter dans un canot.
Ouh là là, toutou, là. Moi, je suis en vacances. Hein. C'est qui va piloter le bateau si vous partez ?
Oh, vous savez, aujourd'hui, tout est sur ordinateur. Et c'est comme jouer à la PlayStation. Vous savez, moi ? Moi, on me sort que pour les photos.
Sur France Inter.
Bonjour les mouettes et bonjour à tous, heureux de vous accueillir dans ce magazine de nature et d'environnement, CO2 Mon Amour, une émission qui rapproche les hommes, parfois sans les écouter pour cela, et en rapprochant évidemment tous de la nature. À la technique, il y a Pierre Faucillon, Youtou Diego Aclopez aussi avec nous, et c'est Camille Blanès qui réalise l'émission, notre assistante, et Alice Michaud. Je craque, j'étincelle, j'allume le ciel, j'allume la terre, je suis l'orage. Nous, devrais-je dire, nous sommes une amicale, nous sommes des milliers à mettre le feu. Votre atmosphère est mon terrain de jeu. Je suis unique et en ce mois de mai, alors là, je suis débridé. Faites tourner, faites péter. Vous pouvez me modéliser, me digitaliser autant que vous voulez. Vous ne m'empêcherez pas pour vous de craquer. Je tourne autour de vous. J'aime la chaleur comme un ouragan, un cyclone. Je suis le bouchon de votre cocotte minute démente que vous appelez société, dont le thermostat vous avez déréglé. Alors cumulo, je cumule les nimbus. Année après année, vous réchauffez mon ventre, vous me donnez encore plus d'énergie. Comme vous les humains qui êtes pas bien finis, je ne sais pas m'arrêter, j'en veux toujours plus. Je regarde la carte, je joue aux fléchettes, vous êtes en dessous. J'aime quand ça pète. Eh oui, je fais ce que je veux, l'anticyclone. Depuis un mois, je le repousse du pied de ne pas exister, il n'en peut plus. Un témoignage au standard du téléphone sonne ? Ah non, c'est le téléphone cogne. Je suis l'orage. Et les émetteurs comme le reste, je tombe dessus. En mai, fais ce qu'il te plaît. Venez cueillir le muguet, le lilas, les bleuets et les orages. Je vous fiche la trouille, mais je vous fascine, car depuis la nuit des temps, je vous dépasse et mets vos rivières en nage. Alors, vous avez bien fait de bétonner vos sols. Eh oui. Je fascine les photographes fous, numériques en bandoulière pour être foudroyés de beauté. Ils font des kilomètres par milliers. Pour me traquer, ils prennent parfois des risques insensés. Orage. Oui, mais sans désespoir pour la soif de vos terres. Je vous tourmente, alors assurez-vous, traitez-moi de catastrophe naturelle, rassurez-vous, je suis l'angoisse des assureurs. Bon, alors oui, je sais, j'ai quand même un très très gros défaut. Quand j'explose sans compter, vous pouvez dresser tous les paratonnerres, je détruis sans nuance les vignes, les maisons, les animaux, je suis un orage quoi. Que voulez-vous ? J'étais là au début du monde, bien avant vous. Jamais on ne m'apprendra les bonnes manières. Et dans l'actualité, bon bien sûr, il y a ces orages, et aujourd'hui, 400 citoyens ont été tirés au sort à l'Assemblée nationale, ils sont à l'Assemblée, ils débattent aujourd'hui sur des questions d'énergie, qui a toujours été la chasse gardée des X-Men, des ingénieurs et politiques en France. Bon, ceci dans le cadre de la loi de programmation pluriannuelle de l'énergie, on attendra le résultat donc des courses fin juin, et espérons que ce soit donc un petit peu plus efficace que les résultats des états généraux de l'alimentation, qui ont été phagocytés par les lobbies, la FNSE, et du ministère d'Agriculture. Et pour rester, vous savez, dans le sujet, Bayer, très soucieux de son image depuis quelques errements avec le national-socialisme, mais ça c'était un autre temps, vire le nom de Monsanto de la devanture de sa petite boutique. Écoutez, on les a rachetés 63 milliards de dollars, c'est pas pour qu'ils salissent la belle affiche clinique des médicaments qui sauvent le monde, non. Comme une potion amère, Monsanto se traîne un vieux chromo d'empoisonneur universel, alors sans remonter au sinistre agent orange, des folions du Vietnam, responsable de milliers de malformations congénitales, le sale nom de Monsanto et du glyphosate suffit à entacher la belle blouse blanche du bon docteur Bayer. Allez hop, comme on dit, laver à la machine. On nous dit de manger moins de gras. On nous dit de manger moins de sucre, moins de sel. Mais est-ce que l'on nous dit de manger moins de glyphosate? Non, sûrement parce que c'est plein de vitamines. Alors rappelons, mesdames et messieurs les députés, qu'il y aurait peut-être comme un léger souci de santé publique. On a besoin de bonnes nouvelles dans ces missions.
Mais oui,
mais bien sûr, bah sinon on vit pas, c'est normal. On va se faire un petit tour du côté de la fondation Famae. Moi je la connaissais pas du tout, c'est une fondation familiale. À sa tête c'est Éric Philippon, alors qu'il a gagné pas mal d'argent dans la finance. Mais après vous savez ce que c'est, une prise de conscience, on change de vie, on change un petit peu de cap. Et là ils viennent de mettre quand même 1 million d'euros pour récompenser des innovations environnementales. Ces prix ont été remis tout à fait récemment. Bonjour à Éric Philippon, donc racontez-nous, parce que le thème cette année donc de ces prix, c'était la gestion et réduction des déchets.
Bonjour Denis. Trois prix principaux ont été remis. Le premier, le grand prix, a été remis à un rassemblement de 3 startups en fait, qui ont décidé de travailler ensemble pour mettre au point la première couche bébé 100% biodégradable.
Bon, donc c'est pas les couches lavables, là c'est bien des couches biodégradables, c'est-à-dire que lorsqu'on les met après merveilleusement dans les poubelles bleues, on va dire le tout venant, qu'est-ce qu'elles deviennent ?
Alors l'idée, c'est que justement ces couches, elles soient traitées à part, collectées à part, notamment via les réseaux des crèches. Et les couches, une fois que vous avez changé, vous avez remplacé le plastique, aujourd'hui il y a du plastique dans les couches, mais si vous remplacez ce plastique par des matières végétales, vous aurez une couche qui sera entièrement biodégradable. Et en gros, la cellulose, le caca de bébé et son pipi, c'est des engrais extraordinaires, donc cette couche sera compostée.
Le gisement, c'est quand même les crèches, parce que le particulier, c'est quand même plus compliqué pour lui.
À court terme, vous avez raison, c'est plutôt les crèches parce que c'est plus facile, les volumes sont massifiés en quelque sorte, puisqu'on est à un endroit où on a beaucoup de couches usagées. Pour le particulier, on est plutôt sur un horizon à 3, 4, 5 ans, mais on y viendra parce que la réglementation va forcer tout le monde à séparer de plus en plus les déchets, on le voit tous aujourd'hui, on a de plus en plus de bacs et il y en aura de plus en plus. Et les couches, c'est le dernier, j'allais dire, maillon à traiter parce que c'est celui qui est le plus compliqué à traiter aujourd'hui. Et donc c'est pour ça que ce rassemblement de 3 startups nous a fasciné avec cette idée de couche 100% biodégradable. On va bien sûr commencer par les crèches à court terme.
De la couche à l'insecte, en particulier la mouche, il n'y a qu'un pas, on comprend la liaison, et pourtant ça n'a pas de rapport. Prestifial, deuxième prix, qu'est-ce que c'est ?
Alors le deuxième prix, c'est un secteur qui est en train d'exploser, c'est on utilise des insectes, donc comme vous l'avez dit des mouches, pour manger nos biodéchets, nos résidus de matière organique.
Elles adorent.
Et ça, c'est extraordinaire. Ils adorent. Une larve de mouche, ça croît à une vitesse absolument incroyable. Mmh. Et c'est une usine biologique extraordinaire pour traiter nos biodéchets. Elle a la capacité, elle est bien meilleure que nous, bien meilleure que toute la chimie verte sur Terre, la mouche. Parce qu'elle prend nos biodéchets, elle va les transformer en protéines et en huiles qu'on pourra réutiliser après, soit dans l'alimentation pour animaux, soit dans certains process industriels.
Quelle est la source ?
Les premières initiatives, les premières boîtes qui se sont lancées dans ce métier utilisent des déchets de l'industrie agroalimentaire. Mais nous, l'idée avec Protifly, avec ce deuxième prix, c'est d'aller mettre nos biodéchets, c'est-à-dire nos poubelles vertes, au sens nos épluchures, nos restes de fromage, etc., d'aller justement nourrir les mouches avec nos poubelles.
Concrètement, après, ça va être transformé, donc non pas en engrais, mais peut-être encore en alimentation, c'est ça l'idée ?
Alors l'idée, c'est que la mouche, la larve grandit. À un moment, on arrête la croissance de la larve, on la broie et on extrait des protéines et de l'huile, qui sont des ingrédients qu'on peut remettre effectivement dans de l'alimentation pour animaux ou qu'on peut remettre dans des tas de process industriels, dans des utilisations qui ne sont pas forcément d'ailleurs alimentaires, parce que la qualité qu'on aura obtenue sera très très pure et la larve de mouche est très très riche en protéines et en huile surtout, elle est très grasse entre guillemets. Une partie de ces larves, une fois broyées, on extrait donc les protéines, l'huile, et il y a aussi un résidu et qui est extrêmement riche en termes agronomiques. Et on peut en faire du compost.
Troisième prix Famae, c'est le plastique. Nous sommes dans un monde merveilleux de plastique à tous les étages. Precious Plastic, qu'est-ce qu'ils font ?
Alors ça, c'est des gens extraordinaires. Precious Plastic, c'est un designer hollandais qui a dit, moi je vais appliquer l'open source, qui est arrivé bien sûr dans l'industrie du logiciel depuis 30 ou 40 ans. Il a dit, je vais l'appliquer au plastique. Et il a mis au point toute une série de petites machines, pas chères, qui sont montables avec des technologies disponibles partout, que ce soit au fin fond de la Thaïlande, du Mali ou au fin fond du Colorado. Et ces machines permettent de recycler le plastique. Et son idée, c'est de dire, finalement, on n'a pas d'artisans du plastique. On sait travailler le bois depuis 20 000 ans, 50 000 ans, on sait travailler le métal depuis 20 000 ans. Mais le plastique, quand on le prend, on le jette. Il n'y a pas un artisanat du plastique. Et donc lui, il essaie de remettre via l'approche open source, c'est-à-dire des plans qui sont partagés, qui sont gratuits, qui sont améliorés par toute la communauté. Il a 50 000 personnes dans sa communauté Mais les types améliorent les machines et elles sont disponibles, les plans sont disponibles gratuitement. Alors après, bien sûr, il faut acheter les pièces pour monter la machine ou il faut acheter des machines à monter soi-même.
Alors, qu'est-ce qu'il y a, je dirais, d'original? Parce que en fait, on recycle déjà du plastique, on n'en recycle sûrement pas assez. Mais lorsque l'on nous dit, par exemple, vous consommez 30 bouteilles d'eau et après ça va se transformer en pull-over, ça existe déjà. Est-ce que ça va se transformer après en paillettes et on en refait déjà autre chose?
Oui. Vous avez raison, en théorie, mais les circuits de collecte du plastique, malheureusement, notamment en France, on n'est pas les bons élèves de l'Europe.
Ça non.
Les taux de recyclage sont assez faibles, sont à 10 ou 20%. Et là, l'idée, c'est de dire, en allant mettre les machines plus près dans les villes, dans les villages, vous recréez une unité de production localement, et parce que son gisement de plastique, il est autour d'elle. Ou alors, il est sur la plage, d'accord, il est sur la mer, il est dans les champs.
Donc, oui.
Il y a cette idée quand même d'économie circulaire, de relocaliser la réutilisation du plastique. Et ça, on a trouvé que c'était une très belle idée. Son approche fonctionne. Il a 200 ateliers qui fonctionnent dans le monde et il y a des gens qui vivent de leur activité avec les machines précieuses plastiques, notamment en Thaïlande, au Maroc.
Ça veut dire que ce sont des petites unités et non pas des monstres industriels.
Exactement. Et donc, on est sur des technologies qui n'émettent pas de gaz puisque le plastique n'est pas refondu. Il est ramolli, mais il n'est jamais brûlé. Donc, il n'y a pas d'émanation.
Merci Eric Philippon, donc, de la formation FAMAE, donc, pour ce prix. Alors, ça va être une ronde de quoi? Eh ben, ça va être une ronde écologique, ça, vous en doutez un tout petit peu, mais une ronde francophone avec nos amis du Canada, de la Belgique et de la Suisse.
So just leave me.
Broke my own, on va pas tout casser quand même, c'était Shannon Shaw sur France Inter, chanteuse et groupe californien, et on va partir, on va changer de fuseau horaire.
Tu te souviens quand on allait faire du cerf-volant, au parc? On se débrouillait bien tous les deux. Il montait haut, très haut. Ça t'épatait. Tu vois, la vie, la mort, ça nous dépasse tous. C'est comme le cerf-volant.
CO2, mon amour.
On croit qu'on le maîtrise, mais en fait, c'est le vent, juste le vent.
Denis Chessou.
C'est très joli, ça. Voilà. Bah, c'est la nature aussi. L'homme pense être démiurge et pouvoir la domestiquer dans tous les sens et l'apprivoiser. Bah, non. Une fois de plus, il va falloir faire avec et de plus en plus. Alors, on va commencer cette ronde, donc, d'environnement francophone. On va rejoindre, alors, là, je l'ai enregistré parce qu'il y avait un décalage un tout petit peu quand même horaire avec le Canada, avec Montréal. Il s'agit de Étienne Leblanc. Alors, Étienne Leblanc, c'est un homme qui a un intérêt pour la science, pour la randonnée pédestre, pour les grands parcs. Donc, il adore ça. Et alors, Étienne, donc, le débat que vous avez, qui était extrêmement important en ce moment, c'est sur celui des pipelines pour évacuer le pétrole de l'Alberta. On va avoir plein de sujets, mais on va commencer par les pipelines. Étienne Leblanc de Radio-Canada.
Je dirais que c'est le débat le plus vif actuellement sur la question de l'environnement au Canada, certainement. Vous savez, on a élu en 2015 Justin Trudeau comme premier ministre du Canada. Il avait été élu sur ses promesses de verdir le Canada, de rompre avec l'ancien gouvernement qui n'était pas très chaud à la défense de l'environnement. Et là, on le trouve pris dans un débat sur les pipelines, parce que vous savez, le Canada est un important producteur de pétrole, notamment grâce à ses ressources de sable bitumineux. Donc, c'est du sable dans le nord de l'Alberta qui contient du bitume. On va le chercher avec des grosses pelles et puis on extrait le bitume du sable et on exporte ce pétrole.
C'est
et
un désastre total environnemental, hein, soyons
exactement
très clairs.
Exactement. C'est très néfaste pour l'environnement, non seulement parce qu'il faut couper les arbres qui poussent sur cette terre, il faut aller après ça creuser. Et pour séparer donc ce bitume du sable, ça prend de la chaleur, chaleur qui est générée avec souvent des centrales au charbon. Bref, tout le cycle est très polluant. Maintenant, c'est bien connu, toute la planète le sait, mais ça reste que le Canada a les troisièmes plus grandes réserves de pétrole au monde. Donc, ce sont des ressources importantes, ça crée des milliers d'emplois. Mais le problème, c'est que ça se situe en Alberta, ce n'est pas sur le bord de la mer. Et donc, pour sortir ce pétrole du pays, eh bien, ça prend des pipelines. Alors, maintenant, on est un peu rendu à un point où il n'y a pas assez de pipelines, il n'y a pas assez de portes de sortie pour tout le pétrole qu'on voudrait produire. Et donc, il y a eu trois grands projets de pétrole dans les dernières années. Il reste un projet qui a été approuvé par le gouvernement canadien de M. Trudeau, le projet Trans Mountain. Bon, normalement, avec l'approbation finale du gouvernement fédéral, ce projet devrait se faire, mais là, il y a de la contestation parce qu'il y a, un gouvernement provincial, donc de la Colombie-Britannique, qui s'y oppose parce que le pipeline arriverait, aboutirait donc près de la ville de Vancouver, le port de Vancouver, et évidemment, c'est la dernière porte de sortie pour les producteurs de pétrole pour exporter leur pétrole vers d'autres marchés, notamment, évidemment, vers l'Asie. Sinon, il n'y a pas d'autre porte de sortie. La seule exportation qu'on puisse faire actuellement avec les infrastructures qu'on a, c'est vers les États-Unis. Et on le sait, les Américains produisent de plus en plus de leur propre pétrole avec le fameux pétrole de schiste. Et donc, ils veulent de moins en moins de notre pétrole. Alors, on se trouve dans un goulot d'étranglement. Et là, il y a une bataille bien rangée entre la province de la Colombie-Britannique et M. Trudeau qui a complètement changé son fusil d'épaule et défend ce pipeline vraiment de façon très, très vive et très intense. Mais il et promet même de l'imposer.
Il risque de perdre sur les deux tableaux parce qu'en fait, d'un côté, il se fait élire avec un discours vert. Et puis de l'autre côté, il y a l'industrie pétrolière, donc c'est pas très simple, non?
Il est en train de perdre sur tous les fronts, notamment, entre autres en Alberta, mais aussi un peu de faveur, je vous dirais, d'une province qui a voté massivement pour lui, à savoir le Québec. M. Trudeau a une réputation un peu diminuée, si je vous dirais, au Québec.
Montréal, c'est 4 millions d'habitants. On rappelle qu'il y a 8 millions d'habitants donc chez vous au Québec. Et il y a aussi un autre enjeu intéressant actuellement, c'est les transports collectifs. Ça nous intéresse bien, ça. Comment ça fonctionne chez vous?
Montréal est une ville qui a souffert d'une trentaine d'années où on n'a pas du tout, on s'est pas du tout occupé des infrastructures souterraines, les égouts, les aqueducs, etc. Et là, aujourd'hui, on vit dans un grand chantier de construction parce qu'on essaie de réparer tout ça. Et évidemment, c'est très difficile de circuler. Et là, le transport en commun, les transports collectifs prennent tout leur sens parce que les gens veulent bien abandonner la voiture, mais encore faut-il qu'il y ait des moyens adéquats et confortables pour le faire. Et donc, l'enjeu des transports collectifs depuis 5 ou 6 ans, elle prend de l'ampleur et là, il y a une élection bientôt au Québec au mois d'octobre, le 1er octobre. Et la question des transports collectifs, elle est au centre. Tous les partis doivent se positionner. Est-ce qu'il y aura une nouvelle ligne de métro à Montréal? Une nouvelle ligne qui est, je dirais, très, très demandée parce que le métro est surchargé. Il y a plus de place. Les wagons sont pleins. On ne peut plus en mettre plus de trains. Et donc, on a besoin de plus de place, si vous voulez. Les autobus, les ponts sont bondés. Comment faire venir les gens de la banlieue en ville sans congestionner toute l'île de Montréal? Et donc, c'est pour la première fois, je vous dirais, un enjeu majeur dans une campagne électorale. Et dans un sens, c'est une bonne nouvelle parce que c'est quelque chose dont on parlait trop peu probablement dans le passé.
Et on fait du vélo aussi chez vous? On est cycliste à Montréal?
Au point de vue nord-américain, c'est une ville qui se défend très bien. Il y a de plus en plus de cyclistes. Même avec, vous savez, le réchauffement climatique et avec nos hivers qui sont plus doux, je vous dirais qu'il y a de plus en plus de cyclistes qui y font du vélo de plus en plus longtemps. Et à Montréal, on voit un phénomène depuis 4 ou 5 ans. Ce sont les cyclistes d'hiver, donc les gens qui font du vélo 12 mois par année, même par moins 15, moins 20 degrés Celsius, on sort les vélos. Et depuis donc 2-3 ans, la ville a commencé à déneiger des pistes cyclables pendant l'hiver, mettre un peu d'abrasif pour enlever la glace, etc. Et donc, c'est une chose qui est en train de se passer. Et puis, Montréal a une nouvelle mairesse, là, depuis l'automne dernier, une mairesse qui est très, très pro-vélo. Et donc, on a promis de construire là, beaucoup d'infrastructures pour améliorer la qualité du cyclisme à Montréal et d'améliorer la sécurité des vélos, des cyclistes en ville. Vous savez, moi, je suis beaucoup ce qui se déroule chez vous, notamment à Paris. Vous avez les mêmes débats chez vous. Ce sont des choses qui se passent. Et donc, à Montréal, on n'est pas exempt de tout ça. Les cyclistes veulent plus d'infrastructures parce qu'il y en a de plus en plus.
Le cyclisme est donc un marqueur du réchauffement climatique chez vous, hein. Un peu d'ailleurs aussi comme les insectes qui remontent du sud, parce que ça vous en avez. Si on s'intéresse, tenez, effectivement, à l'eau et à l'électricité. Vous me disiez que, d'accord, l'écologie, mais on est quand même assez gaspilleur quand même chez vous.
Oui, les Québécois ont des comportements un peu paradoxaux, je vous dirais. Ils se disent très verts. Dans un sondage qui était publié d'ailleurs samedi, on disait que 66% des Québécois étaient prêts à renoncer à une certaine croissance économique pour la protection de l'environnement. Or, quand on regarde dans les comportements qu'on adopte ici à tous les jours, on est les plus grands consommateurs d'eau de la planète. On consomme 250-300 litres d'eau par jour par personne. Oui. Au Québec, l'eau est gratuite, elle ne coûte rien, elle coule dans nos robinets sans qu'on la paie vraiment. Et donc, ça encourage évidemment un comportement un peu excessif. Et même chose avec l'énergie. Vous savez, l'électricité québécoise, une coûte...
L'hydroélectricité.
Oui, est une des moins chères au monde. Et donc, les maisons sont mal isolées. On n'est pas très incité, finalement, à faire les travaux qui s'imposeraient parce que, finalement, la facture d'électricité, elle est chère pour certaines personnes, évidemment. Je dis pas que ça ne coûte rien. Mais si on compare à ce qu'on voit dans les grandes villes américaines ou même chez vous, ce n'est pas grand-chose. Donc, on gaspille l'énergie. On pourrait faire davantage d'efforts pour rénover les immeubles publics, rénover les maisons, etc. Et pour l'instant, je vous dirais que là-dessus, le Québec n'est vraiment pas un exemple à suivre.
Alors regardons maintenant, Étienne Leblanc, quand même, ce grand fleuve absolument incroyable qui est le Saint-Laurent. Il fait près de 1200 kilomètres, c'est le plus grand estuaire quand même du monde, 370 kilomètres. Il va jusqu'au lac Ontario et là, on a les baleines. Où en est-on avec ces mammifères marins et puis ces autres animaux?
Ce sont des mammifères marins, évidemment, qui sont une emblème pour le Québec, un symbole, si je vous dirais, de la grande qualité environnementale du fleuve Saint-Laurent. Mais ce sont des mammifères qui sont extrêmement sous pression. Et on se rend compte qu'il y en a de moins en moins. Les bélugas, entre autres, cette petite baleine blanche, sa population diminue pour toutes sortes de raisons qui ne sont pas tout à fait claires encore, mais on soupçonne certains polluants. Et d'autre part, dans le grand golfe du Saint-Laurent, depuis quelques années, on a la présence de baleines noires. Donc, des baleines qui, normalement, pendant l'été, vont plutôt se nourrir vers le sud, donc sur la côte est américaine. Mais là, depuis quelques années, on les voit, elles ne redescendent pas si loin que ça. Elles restent plutôt au large de Terre-Neuve et pas très loin du Québec. Et c'est une zone de pêche extrêmement importante. Et là, depuis l'année passée, on voit que ça entre en conflit, dans le fond, avec les bateaux de pêcheurs. L'année passée, il y a eu une dizaine de baleines noires qui ont été trouvées mortes dans cette région. Et on s'est aperçu qu'elles s'étaient empêtrées dans des filets de pêche. Alors ça, c'est un phénomène nouveau parce que l'eau se réchauffe et parce que les baleines trouvent maintenant leur nourriture dans cette zone plutôt que d'aller plus au sud. Elles ont besoin d'aller moins loin pendant l'été pour venir se nourrir. Et là, il y a des règles qui ont été imposées aux pêcheurs qui doivent maintenant aller pêcher plus loin. Alors, vous voyez un peu le genre de conflit, dans le fond, que ça peut créer dans une zone qui dépend économiquement de cette activité.
Parlez-nous aussi, Étienne, avant de se quitter, de cette nature qui est quand même très proche de Montréal et de la protection que l'on fait. Alors ça peut être aussi, peut-être aussi sur les ressources naturelles, que sais-je, mais racontez-nous, parce que c'est vrai que ce fleuve immense rythme aussi un peu l'imaginaire et la vie des gens.
Oui, c'est sûr que la majorité de la population habite le long du fleuve Saint-Laurent. C'est certain que le fleuve, dans le fond, est le grand marqueur du territoire québécois. Il y a de plus en plus de parcs, de zones protégées, si vous voulez, qui sont accessibles aux gens qui veulent goûter un peu à la nature. Entre autres, le long du fleuve Saint-Laurent, le long de grandes rivières, il y a des zones protégées où on peut aller faire du camping, mais vraiment dans des conditions plutôt sauvages, donc qui sont aménagées de façon minimale, mais qui nous permettent de goûter, dans le fond, à cette nature, d'entrer en contact avec la faune et la flore. À Montréal même, il y a le grand parc du Mont-Royal, qui est toujours sous pression, la grande montagne au centre de la ville, qui divise la ville dans tous ses coins, finalement, et qui est sous pression parce qu'évidemment, il y a des promoteurs qui aimeraient y construire des habitations, etc.
On a les mêmes.
Et c'est notre Central Park à Montréal. Et c'est oui. Même le même architecte qui l'a dessiné. Et donc, c'est le grand poumon de la ville. Mais sinon, on traverse les ponts et on arrive dans les Laurentides ou en Estrie, et là, la nature, elle est belle et elle n'est pas si loin que ça, finalement.
Et votre petit coin à vous, Étienne?
Moi, j'ai depuis 20 ans, je loue une petite maison à tous les étés sur une petite île du Saint-Laurent qu'on appelle l'île Verte, qui est une île dans le bas du fleuve Saint-Laurent, pas très loin de Rivière-du-Loup, donc la ville. Et c'est un endroit, c'est mon petit secret, faut le dire à personne d'ailleurs, parce qu'on est bien comme ça, mais c'est un endroit où l'été, on voit les baleines de la côte, de la plage, parce qu'on est juste en face de Tadoussac, et c'est une zone où il y a beaucoup de nourriture pour les baleines, donc on voit les petits rorquals qui viennent se nourrir. Rire comme ça tous les jours, les enfants adorent ça.
C'était joli, ça, cette balade, donc avec Étienne Blanc de Radio-Canada. Oh, qu'est-ce que je vois? Je vois Lucille Solarit, et je mets sur la pointe des pieds, je vois la Suisse. Oh, ben elle va attendre un tout petit peu le temps qu'un chanteur auvergnat depuis Dôme s'exprime.
Tu réveilles ta maîtresse Minette par tes longs cris. Est-ce la faim qui te presse? Entends-tu quelques souris? Tu veux fuir de ma chambrette pour courir je ne sais où. Mou, que veut Minette? Mou, c'est un matou. Pour toi je ne puis rien faire, cesse de me caresser. Sur ton mal l'amour m'éclaire, j'ai 15 ans, j'y dois penser. Je gémis d'être seulette, en prison sous le verrou. Marron, que veut Minette, marron, c'est un matou. Si ton ardeur est extrême, même ardeur vient me brûler. J'ai certains voisins que j'aime et que je n'ose appeler. Mais pourquoi sur ma couchette rêver à ce jeune fou? Mao, que veut Minette? Mao, c'est un matou. C'est toi, chatte libertine, qui met le trouble en mon sein. Dans la mansarde voisine, du moins réveille voisin. C'est peu qu'il presse en cachette, et ma main et mon genou. Marron, que veut Minette? Marron, c'est un matou. Mais je vois voisin paraître, parlez-toi, il vient ici. Ouvrons-lui la fenêtre, toi Minette, passe aussi. Lorsqu'enfin mon cœur se prête au larcin de ce filou. Mao, que veut Minette? Mao, trouve un matou. Ma, 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 que veut Minette? Mao, 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 trouve un matou.
Ben oui, mais on a trouvé la chanson rigolote de Jean-Louis Murat. Si, c'était très bien. C'est donc ça s'appelle La Chatte, Ami du Puy de Dôme. Et alors, donc, on va partir un tout petit peu plus loin. On va rejoindre Lucille Solari, qui, chez RTS, la radio-télé suisse romande. D'ailleurs, on les salue parce que l'audiovisuel public, suite à une votation, a été sauvé. Ouais. Elle anime Prise de Terre. Très, très bon magazine. Bon, c'est le CO2 Mon Amour là-bas. Hein. C'est un peu différent, mais c'est comme ça. Dans ce petit pays de 41
5000 km², plus de 8 millions d'habitants, qui est donc fortement quand même densifié et qui est bordé par deux chaînes de montagnes. Vous avez le Jura d'un côté, vous avez les Alpes de l'autre, hein, on révise sa géographie. Et donc, les gens sont quand même sur des zones habitables de façon un peu restreinte. Bonjour à vous, Lucile Solari, parce qu'en fait, on a une image de la Suisse d'un pays propre, écologique, où on fait attention à sa nature. Qu'est-ce qu'on peut dire?
Bonjour Denis. Eh ben écoutez Denis, c'est vrai que j'ai remarqué aussi que la Suisse avait plutôt une bonne image à l'étranger. Je sais pas vraiment à quoi c'est dû, peut-être parce qu'on a cette image de peuple propre, ordonné, discipliné et donc forcément plus écologique peut-être que d'autres pays plus latins. Je ne sais pas si effectivement sur le terrain on va voir que les choses sont un petit peu plus compliquées que cela. On fait globalement on fait pas mieux hein, que nos voisins européens et dans certains domaines Denis, on fait même légèrement pire, notamment dans le domaine de la biodiversité. Nous avons été épinglés l'année dernière par un rapport de l'OCDE, rapport qui montrait la Suisse comme un peu le bonnet d'âne de l'Europe du point de vue de la gestion de sa biodiversité et également de la qualité de son eau.
Mais alors, c'était lié à l'urbanisation qui est extrêmement forte, c'est lié à quoi en fait ?
Alors d'après le rapport de l'OCDE, eh bien écoutez, c'est toujours un peu les mêmes causes hein, que l'on retrouve ici comme ailleurs. Il y a évidemment la densification, le mitage du paysage. C'est un petit pays. Voilà, il faut bien loger tout le monde, il faut bien construire des immeubles, des routes, des infrastructures. Donc beaucoup de bétonnage. Et puis l'utilisation massive de pesticides, alors même que deux initiatives populaires sont en cours en ce moment en Suisse. Alors les initiatives populaires, je ne rentre pas trop dans les détails, mais disons grosso modo c'est comme un référendum, sauf que ça n'est pas un référendum, mais enfin il s'agit toujours de demander l'avis du citoyen suisse. En l'occurrence, ces deux initiatives demandent pour l'une que l'agriculture qui utilise des pesticides ne soit plus subventionnée, et puis l'autre est beaucoup plus jusqu'au boutiste, je dirais, puisqu'il s'agit d'interdire purement et simplement l'usage de pesticides de synthèse dans tous les domaines où ils sont utilisés aujourd'hui, c'est-à-dire autant dans l'agriculture que dans les parcs et jardins, par exemple, mais interdire également l'importation de produits qui contiendraient des pesticides. Alors, ces deux initiatives ont été déposées récemment à la chancellerie fédérale. On sera donc appelé prochainement, dans les prochaines années, c'est toujours un peu long, hein, le processus démocratique, mais ces prochaines années, le peuple suisse sera appelé à voter sur ces questions-là.
Et sur les autres surfaces, c'est quand même aussi extrêmement important. Enfin, c'est comme chez nous également, donc beaucoup de pesticides, sûrement beaucoup trop. Et lorsque ça ne va pas, on se dit regardons les normes, et si les normes vous plaisent pas, peut-être qu'on les augmente ou on les diminue.
Ouais, je vois que vous êtes bien informé, Denis. Effectivement, il y a deux révisions de lois qui sont très importantes en ce moment en Suisse. Alors, il y a la révision partielle de la loi sur la chasse. Mais là, vous faites allusion à la révision de l'ordonnance fédérale sur la protection des eaux. Il s'agit, dans cette révision de cette ordonnance, de proposer l'augmentation des seuils de tolérance des concentrations de 25 micropolluants, dont le glyphosate dont la valeur limite pourrait être multipliée, tenez-vous bien Denis, par 1200.
Ah, ils sont bien chez vous aussi.
Hein,
ah,
on fait pas les choses à moitié quand on s'y met.
Mais il tourne à gauche dans la présélection pour aller tout droit, mais c'est dangereux. Et bien sûr, t'es un Français. Ah, les Français à la discipline, c'est pas votre truc, hein. Les papiers par terre, les feux rouges qu'on respecte pas. Les Français, vous êtes hermétiques à la logique.
Excuse-moi, mais les Français, on est un peu les inventeurs de la logique, hein? Descartes, il n'était pas suisse à ma connaissance.
Ouais, la logique, je sais pas. En tout cas, vous êtes les inventeurs de l'esprit chauvin.
Lorsque l'on parle de changement climatique, vous êtes quand même vous aussi aux premières loges, c'est-à-dire qu'il y a la montagne, on sait que ça fond quand même plus vite.
Deux fois plus vite
que sous l'autre latitude. Donc comment on prend cela? Est-ce qu'il y a un plan d'adaptation au changement climatique?
Alors, en ce qui concerne la production de plans d'adaptation, le Conseil fédéral n'est pas avare. On a plein de plans, on a des plans pour la conservation de la biodiversité. On a effectivement un plan d'action d'adaptation au changement climatique. Ce plan a été approuvé par le Conseil fédéral. Il s'agit pour l'instant beaucoup de wait and see, si vous voulez. Hein. Oui. C'est-à-dire que si on consulte vraiment toutes les propositions, il y a des choses très concrètes qui sont proposées, mais c'est beaucoup aussi dans les propositions. L'idée qu'on va étudier comment ce changement climatique affecte effectivement les différentes régions de Suisse, qu'est-ce qui se passe exactement. Et puis une fois qu'on aura bien compris tout le mécanisme, eh bien, on va probablement agir. D'autant que les fonds qui sont débloqués pour ce plan d'adaptation semblent quand même même assez ridiculement dérisoire par rapport à l'enjeu, puisqu'on parle d'un plan de 40 millions de francs suisses à peu près, mais je cite de mémoire, mm-hmm. Sur 5 ans.
Ah oui.
Et pour vous donner une petite idée de proportionnalité, le Conseil fédéral vient d'annoncer qu'il allait débloquer pas loin d'un milliard de francs suisses pour le soutien du Conseil fédéral à la candidature de la ville de Sion aux Jeux olympiques d'hiver, je ne sais plus quelle année, d'ailleurs 2026, je crois, c'est
mais
ça.
Non, c'est pas la même proportion, on voit assez bien. Alors vous avez quand même aussi des citoyens, des aînés pour le climat, et avec d'ailleurs pas mal de femmes qui sont là. Qu'en est-il ?
Ça, c'est très intéressant quand même comme phénomène, ce dont cette association d'aînés pour la protection du climat. Ce sont effectivement des femmes retraitées qui s'estiment plus vulnérables peut-être encore que d'autres parties de la population, plus vulnérables aux effets de la pollution de l'air. Et elles se sont donc regroupées en association pour attaquer la Confédération en justice pour non-respect de la loi sur l'air et mise en danger de la vie d'autrui. Donc, le processus actuellement est en cours. Je pense qu'il faudra aussi attendre plusieurs mois, voire plusieurs années avant de voir quel en sera le résultat. Mais de toute façon, l'idée, c'est vraiment de mettre la pression sur le Conseil fédéral pour qu'il applique les mesures qui sont prévues dans la loi sur la qualité de l'air et également dans la loi sur le CO2, qui est une loi qui a aussi été adoptée en vue de pallier les problèmes de réchauffement climatique.
Lucille Solari, parlez-nous aussi quand même de l'énergie. Hein. Principalement, c'est l'hydroélectricité, donc grâce au barrage chez vous. On a une sortie du nucléaire qui est prévue pour quand ?
On a voté là-dessus, il y a un an, c'était l'année dernière, sauf erreur, sur la stratégie énergétique 2050 de la Confédération. Effectivement, l'objectif, c'est de sortir progressivement du nucléaire. Pour l'instant, on produit à peu près 33% de notre bouquet d'électricité est produit par le nucléaire, avec 4 centrales et 5 réacteurs. Et il est prévu, dans cette stratégie énergétique 2050, de sortir de ce modèle, comme le dit le nom de la stratégie, d'ici 2050, en laissant petit à petit mourir ces centrales nucléaires de leur belle mort.
Mais sinon, ça veut dire aussi développer des énergies renouvelables avec des micro-barrages alors ?
On produit 58% de notre électricité déjà par l'hydroélectrique, puisqu'on a la chance pour l'instant encore, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais on a les Alpes et on a beaucoup d'eau. Donc effectivement, on a la chance de pouvoir produire notre électricité à partir de l'hydraulique. Et puis alors, l'autre volet de cette stratégie énergétique 2050, c'est évidemment de remplacer petit à petit l'énergie nucléaire par les énergies renouvelables, donc l'hydraulique, mais aussi l'éolien. Et là...
Grosse opposition.
Eh ben, ça coince, parce qu'on a voté massivement, j'ai plus le chiffre, je crois qu'on était 58% de la population suisse a accepté la proposition du Conseil fédéral sur la stratégie énergétique 2050, qui comportait un large volet de développement des énergies renouvelables et notamment de l'éolien. Mais quand il s'agit concrètement de passer au projet, eh bien là, ça coince parmi la population qui est directement concernée par les parcs éoliens. En l'occurrence, c'est beaucoup ce qu'on appelle l'arc jurassien, c'est-à-dire le massif du Jura. Ça va grosso modo du nord vaudois jusqu'à Bâle. Là, beaucoup de projets sont prévus et on rencontre beaucoup d'opposition pour des questions de nuisances sonores ou des questions de nuisances du paysage. Donc chaque projet met énormément de temps à avancer puisqu'il faut traiter les oppositions.
J'aimerais bien aussi avoir, Lucille Solari, votre petit coin de paradis perso quand même dans ce pays qui est quand même beau. Vous nous emmenez où ?
J'ai deux images à vous proposer ce matin, Denis. Récemment, j'ai eu la chance de monter à 2000 mètres d'altitude dans les Alpes fribourgeoises pour assister après une nuit en bivouac aux parades du tétralyre, donc le petit coq, et ça, franchement, c'est un moment absolument magique. Et puis à force d'accompagner des photographes animaliers, des peintres naturalistes, j'ai eu envie moi aussi de m'y mettre. Donc depuis 2-3 ans, je fais un petit peu de photos animalières. Et il y a une chose que j'adore faire, c'est me lever à 4 heures du matin, pénétrer dans une forêt juste avant l'aube, s'installer dans l'affût, s'allonger et puis juste... écouter la nature qui se réveille, les premiers chants d'oiseaux et puis les premiers rayons du soleil, et puis avoir comme ça le sentiment pendant une heure ou deux, vraiment de faire réellement partie de ce monde sauvage, avec quand même parfois un petit sens de culpabilité par rapport à ce monde sauvage, et avoir le sentiment d'être aussi un petit peu voyeur.
le Québec, la Suisse avec vous, Lucille Solari, et il nous manque la Belgique, donc ce sera dans quelques instants avec Sophie Brems. Juste après, un petit crochet du côté de Saint-Étienne.
Main d'acajou, barretto magnifique, les yeux fermés sur un transatlantique. Rêve de Ravel, de Mozart et de France. Combo cuivré, mais c'était pour la danse. Pour la danse. Pour la danse. Danse cambrée, des tambours de Dakar. Tourbillonner, les pagnes du sabbat. Je rêve. Je rêve. Dun-dun bien rose, respecté de partout. Des présidents intimes de Youssou, Youssou. Si jamais tu te casses, si jamais tu te tires ailleurs, si jamais tu te lasses de ma voix et de ma chaleur, si jamais tu t'en vas sans un moment douceur, je serai sur tes pas, je suivrai ton odeur, ton odeur. Le bois qui saigne et la forêt qu'on brûle, les caillapots vidés de leurs tombeaux sauvages. Voleurs de terre sur le petit chevaux, de cartouchères croisées sur la poitrine. Sauvage, sauvage. Si jamais tu te casses, si jamais tu te tires ailleurs, si jamais tu te lasses de ma voix et de ma chaleur, si jamais tu t'en vas sans amour douceur, je serai sur tes pas, je suivrai ton odeur, ton odeur.
CO2 Mon Amour sur France Inter.
Allez, on traverse le nord, les Hauts-de-France, et on arrive où cela? En Belgique, 30 000 km², un roi, Philippe, bonjour Philippe, et puis donc 11 millions d'habitants. Et vous, Sophie Brems, donc à la RTBF, vous êtes à Bruxelles, bonjour Sophie, quelle est la tonalité écologique, alors belge, bio ou pas, s'il vous plaît?
Bonjour à tous, bonjour Denis. Ouais, il y a une semaine de bio d'ailleurs qui commence justement cette semaine, et les gens se sont vraiment, à mon avis, dirigés vers le bio. Alors il y a toujours évidemment cette question bio plus cher et réservée à ceux qui peuvent se le permettre. Et bon, bah, maintenant il y a de plus de campagnes qui mettent que finalement le bio c'est pas plus cher, il faut peut-être simplement réduire un petit peu aussi sa consommation et faire des choix. Mais c'est du bio qui est venu au devant de l'actualité parce qu'on a eu aussi chez nous nos problèmes au niveau donc des abattoirs, et récemment il y avait justement le scandale Veviba sur de la viande, et il se dit que maintenant selon différentes études le Belge ne va plus vraiment vers la viande. Enfin, quand il va en grande surface, c'est plus là qu'il achète ses viandes, il va en grande surface pour acheter ces bouteilles d'eau et peut-être sa lessive, mais maintenant il y a de plus en plus un attrait pour le circuit court quand même. Oui. Ouais, ça devient vraiment très très important, d'autant plus avec ce scandale qui a été...
Vous avez tout, vous avez de la viande à varier, vous avez les œufs au fipronil, vous aussi. Alors, pour les grandes pollutions, on va dire chez vous en Belgique, on a la voiture, qu'est-ce qu'on a d'autre?
La voiture, beaucoup, voilà, parce que bon, il y a eu évidemment toutes les industries de charbonnage. 6 usines de coke ont quand même fermé leurs portes en 20 ans, donc ça a nettement diminué nos émissions de CO2, donc il n'y a plus vraiment de gros pollueurs, mais il y a les voitures, puis le logement quand même, le logement qui est parfois encore assez vieux et qui est mal isolé, et tout le trafic routier. Plus d'un cinquième des émissions en Belgique viennent donc de ce secteur, avec toujours de nombreuses voitures au diesel d'ailleurs. Bon, il y en a qui pointent du doigt l'État comme le plus grand pollueur aujourd'hui, avec les fameuses voitures de société. Tout l'argent injecté par l'État dans ces voitures de société pourrait finalement, selon certains, financer largement plutôt les transports en commun et remettre à flot la SNCP.
En ce qui concerne les pesticides, Sophie Brems, où en est-on? Parce que chez nous, c'est très chaud comme sujet. Enfin, là, actuellement, c'est les pesticides qui gagnent chez nous, et merveilleusement. Mais chez vous, comment ça se passe?
Maintenant, en fait, la vente est carrément interdite aux particuliers. Donc, le fameux Roundup, on ne peut plus l'acheter, le particulier. Bon, il y a une exception pour les professionnels. Et puis, la Belgique a aussi a voté pour au niveau européen. Donc, comme vous aussi. Aussi, chez nous, ce qui est un petit peu notre spécificité, c'est qu'en Belgique, il y a quand même 4 ministres de l'Environnement.
Ah, c'est vrai.
Donc, il y a au niveau fédéral et puis il y a au niveau régional. Oui. En Wallonie, en Flandre et à Bruxelles.
Et Bruxelles, oui.
Voilà, et puis donc le fédéral, ils n'ont pas évidemment la même compétence, c'est-à-dire que ce n'est pas que l'environnement, le fédéral a aussi l'énergie, tandis que au régional, ils ont peut-être la logement, l'autre, il a les loisirs. Donc voilà, donc il y a déjà,
c'est bien,
il faut
chez
se
vous
mettre
aussi.
D'accord.
C'est pas mal,
oui,
ça, oui,
voilà,
oui.
C'est notre spécificité.
C'est ça.
Donc au niveau donc fédéral, ils ont pris la décision d'interdire cette vente parce que du côté des régions, on avait interdit la consommation, mais comme c'était pas dans les compétences du régional, mais on attendait l'aval du fédéral. Mais voilà, maintenant ça s'est mis un petit peu en route. Mais les pesticides sont au devant aussi maintenant de l'actualité chez nous. Les gens en sont conscients, mais c'est aussi la pollution de l'air qui revient à la une de l'actualité. Les gens sont très attentifs à ça, suite au dernier rapport de l'OMS, qui dit que finalement l'air pollue et tue en Europe principalement. Et donc là, il y a vraiment des actions qui sont menées par des associations, notamment Bruxelles Air, à Bruxelles, et par aussi Greenpeace, qui était également très présente à ce niveau-là. Ils disent, c'est très bien, ok, vous nous poussez à rouler à vélo, mais voilà, ou à marcher, ou à prendre, à être plus libéré de la voiture, mais l'air qu'on respire n'est pas bon. Donc, ils essayent de mener de plusieurs actions, notamment avec les enfants dans les cours de récréation, dans les écoles à Bruxelles, en pleine ville. Ben voilà, il y a des études qui sont menées et qui disent que finalement, ils respirent un air très pollué.
Vous avez la mer du Nord aussi, qui augmente là.
Alors là, on a tout un programme du côté flamand, c'est de rehausser, donc de remettre du sable et de surélever les digues parce que le niveau de la mer du Nord augmente. Et au niveau de la mer du Nord, les filets de pêche, ce que les pêcheurs ramènent, c'est aussi différent, puisque les espèces qui étaient plus chez nous migrent avec le réchauffement remonte. Par exemple, au niveau donc de la biodiversité, il y a aussi la population des chenilles qui éclosent beaucoup plus tôt quand le printemps est précoce, mais malheureusement, elles trouvent plus à manger, car les arbres sont en décalage, ils n'ont pas encore formé leurs feuilles, et donc ça ne va plus nourrir les mésanges. Donc voilà, il y a toujours un lien. Et en ce qui concerne, vous le disiez, la mer du Nord, il y a par exemple aussi les moules qui en souffrent, qui rentrent en compétition avec d'autres espèces. Donc c'est vrai qu'actuellement, il y a vraiment l'impact du réchauffement climatique qui est visible, au niveau même du pollen, qui est beaucoup plus présent aussi chez nous. Et donc, il y a de plus en plus d'allergies au pollen, donc au niveau de notre santé. Par exemple, il y a beaucoup plus de vin maintenant chez nous.
Et oui,
il y a
sûr.
Des vignobles qui viennent s'installer chez nous. Vous, c'est fini, ça va venir en Belgique maintenant.
Mais c'est-à-dire, faut juste rappeler qu'au XIIIe siècle, donc la Pologne, la Suède étaient exportatrices de vin, vous voyez, donc c'était ça aussi. Donc il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas de vin l'une et l'autre. Alors pour la Suisse, c'est déjà fait.
Oui, c'est déjà fait.
Bah oui, c'est quand même déjà fait. Dites donc là, toutes les deux, quelles sont à la fois, vos désespérances et vos espoirs lorsque vous voyez donc ce monde dément qui continue à se détricoter d'un côté et en même temps plein de bonne volonté et plein de citoyens qui réclament une autre forme de société. Et comment on vit ça, Lucille, aujourd'hui?
Moi, j'ai l'impression qu'il y a un fossé de plus en plus important qui se creuse en ce moment entre les politiques publiques, entre nos gouvernants qui sont souvent sous la pression de groupes d'intérêt, pour le dire très clairement, et la population civile, le milieu associatif, les citoyens qui petit à petit commencent réellement à prendre la mesure des enjeux qui sont devant nous. Donc je ne désespère pas, et on le voit avec l'histoire des pesticides en Suisse, on a quand même deux initiatives populaires qui sont en cours pour en demander ou la réduction ou l'interdiction, même si d'un autre côté le Conseil fédéral, lui, veut simplement augmenter les valeurs limites du glyphosate dans l'eau. Non, je crois qu'il faut faire confiance à la société civile et ne pas attendre grand-chose de nos politiques. Je
ne sais pas
si vous partagez le sentiment.
En fait, c'est une vision qui est différente. Je pense que le citoyen a une vision à plus long terme, le politique a une vision à court terme. Il faut dire que chez nous, maintenant, c'est un peu biaisé parce qu'il va y avoir les élections communales. Et donc, au niveau des régions, il y en a quand même qui se démènent. La ministre bruxelloise de l'Environnement a annoncé la disparition totale du diesel à Bruxelles. Ce sera fini pour 2030. Mais je voudrais juste rebondir sur ce que disait Lucille au niveau donc des personnes et du mouvement. Chez nous, il y a maintenant aussi une réelle prise de conscience qui évolue. C'est-à-dire qu'on n'a plus trop maintenant le potager urbain, le jardin partagé, tout ça, c'est connu, ça existe. Mais maintenant, on passe au stade de la création de start-up qui sont liés à la transition. Par exemple, si vous voulez vous lancer maintenant dans un food truck, comme c'est un petit peu la mode, les questions qui viennent directement maintenant chez les gens, c'est comment on va faire peut-être de la récup ? Est-ce qu'on va faire du local ou pas ? Est-ce qu'on va faire des légumes de saison ? Qu'est-ce qu'on propose ? Et donc maintenant, on passe un peu du collectif, de la solidarité à l'aspect plus économique et individuel. C'est vraiment important à le signaler, je trouve, actuellement. Je pense que ça prouve qu'on en a conscience et que maintenant, finalement, c'est un petit peu le point positif, c'est que économie, écologie peuvent quand même essayer maintenant de faire bon ménage.
Votre petit coin de nature, Sophie Brems, est-ce que c'est du côté des Ardennes ? Est-ce que c'est du côté de la mer du Nord ? C'est au centre ? Ou est-ce chez vous en Belgique ?
Oui, non, c'est à côté de chez moi. J'ai la chance aussi, j'habite pas très loin de Bruxelles, à 30 kilomètres, mais il y a encore un petit endroit avec des vaches, avec des champs, avec un petit bois, et j'adore aller m'y promener. Pour décompresser, il n'y a rien de tel. Oui. Allez vous promener un petit peu et enlacer un arbre, c'est pas du tout ridicule. Vous avez toute son énergie. Et puis voilà, rien qu'un petit peu près de chez vous, vous regardez, j'ai mis des nichoirs dans mon jardin. Enfin, rien que dans mon jardin, je suis déjà très heureuse de voir comme ça ce petit coin de paradis. Mais il faut venir en Belgique, il y a plein de beaux coins. Donc voilà, c'est ça aussi qui nous donne espoir et qu'on peut rester positif quand même. C'est qu'il y a quand même encore des beaux coins où on peut aller se promener et admirer le monde sauvage comme fait Lucille.
Donc un grand merci à vous deux pour cette ronde
avec
francophone.
Plaisir.
À Étienne aussi, Étienne Leblanc, mais qui ne pouvait pas être avec nous avec le décalage horaire, donc, mais peu importe. Et en tout cas, je vous remercie de tout cœur toutes les deux. À très bientôt.
Merci à vous, Denis.
Merci, à bientôt, Denis. Au revoir, Lucie.
Au revoir, Sophie.
Et on fera d'autres rondes comme ça. Donc merci beaucoup à Camille Blanès qui a réalisé cette émission avec quelques petites illustrations de Xavier Pestugia, Alice Michaud, Anne Gouzon qui nourrit les sites de CO2, donc vous pouvez y aller. Alors là aussi, si vous le souhaitez, abonnez-vous au podcast. Il y a une rediffusion entre 5h et 6h du matin, c'est une petite insomnie, ou bien si vous levez très tôt, ce qui n'est pas impossible. Il y a souvent des sportifs qui se lèvent aussi tôt. Que vous dire ? Si, la semaine prochaine, ce sera une émission donc sur les océans. Comme dirait l'autre, vaste sujet. Il y aura à ce micro Hugo Verlhomme qui nous rejoindra, José Manuel Lamarque que vous connaissez de France Inter, qui est un amoureux des océans et des mers. Et puis, le répondeur 01 56 40 40 35. La tue du Mont-Petit-Loup, ce sera à 19h54 demain, avec des ouvrages pour les petits, parce que les grands, ils se débrouillent assez bien tout seuls, et les petits, les parents, les grands-parents, ils ont donc besoin d'aide. Là aussi, vous pouvez vous abonner au podcast de La tue du Mont-Petit-Loup. Il me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end, et j'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine.
CO2 mon amour, avec le WWF, sauvegardons les océans et leurs ressources qui nous sont essentielles. Rendez-vous sur www.fr.